Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si pour ceux qui sont là, bon, si y a encore quelques places et que vous voulez vous décaler pour voir les diapos, n'hésitez pas. Donc on est en ce moment sur une lecture d'évangile selon Luc. Et donc aujourd'hui, on va voir deux paraboles, peut-être une, on verra en fonction du timing. C'est une occasion. Alors, c'est des paraboles, tu disais tout à l'heure, qui sont annoncées comme difficiles, mais c'est plutôt l'occasion de voir comment Jésus parle en paraboles, en fait. Et puis, peut-être aussi de se poser un tout petit peu la question, comment on peut les comprendre, les interpréter. Donc, c'est pour ça que ce que je vous propose avant qu'on revienne au texte, c'est que on va dire quelques mots, un peu quelques généralités sur les paraboles, sur comment on peut les aborder, relativement vite. Et puis, on s'attardera beaucoup, peut-être exclusivement, on verra, sur la parabole. Alors, on dit l'intendant, malheureusement, j'ai appelé gestionnaire, parce qu'intendant, je me demandais si c'était un mot qu'on comprenait encore bien nos jours, mais ça certain. En tout cas, du gestionnaire, je l'ai appelé malhonnête mais prudent. Voilà, malhonnête mais habile. Et puis, si on a un peu de temps, on verra aussi, on appelle la parabole du juge inique, juge injuste, mais que j'ai appelé la justiciable persévérante. Et donc, on va lire dans l'évangile selon Luc, à la fois dans le chapitre 16, et puis au moins peut-être dans le chapitre 18. Donc d'abord, quelques mots en général sur les paraboles, sur le finalement comment et pourquoi Jésus parle en paraboles. D'abord, il y a différentes... ce n'est pas évident de définir le mot parabole, mais j'ai mis ça, va mettre une chose devant une autre ou auprès afin de les comparer. Voilà, c'est quelque chose qui va un petit peu dans ce sens-là. Donc parfois, on approche les paraboles un peu des fables, des allégories avec des petites différences, mais il y a cette idée, et qui était déjà habituelle pour les auditeurs de l'époque, de parler avec des images, avec des fables. On sait que les fables de La Fontaine, elles sont reprises de fables très anciennes, en fait, latines, etc. Donc c'était vraiment quelque chose qui était assez fréquent de parler par histoire. Si Jésus savait que ses auditeurs étaient habitués à ça. Et ce n'est pas franchement nouveau. La semaine dernière, j'ai fait une formation sur l'art oratoire, et une des premières choses qu'on vous dit, c'est essayer au maximum de faire des histoires pour réveiller les gens, c'est ça qui marche. Donc voilà, l'homme étant le même. Donc il y avait cette idée de parler avec la façon dont les auditeurs avaient l'habitude d'entendre. Et pourquoi ? Eh bien, on sait, parce que ça attire l'attention, parce que ça fixe aussi le message, hein. C'est vraiment un aspect rhétorique, pédagogique, d'utiliser ces histoires-là. Et non seulement ça fixe le message, mais ça, quand vous faites juste une petite intro, une petite, voilà, l'américaine, la petite blague de début, ça fixe le message, mais là, ça va un petit peu plus loin, la façon dont, pourquoi Jésus parle ainsi, c'est que ces histoires, d'abord, elles vont nous frapper, et du coup, elles vont nous pousser, en fait, à la réflexion. Et je pense qu'elles évitent un peu la passivité, le fait de, voilà, d'écouter le discours, enfin, ce que vous allez faire avec moi, là, dans 30 minutes, normalement, je vous aurais perdu, parce que heureusement, il y a des histoires de Jésus, des très belles histoires qu'on va lire ensemble, mais, ces histoires-là, elles obligent à se projeter, à dire mais comment je comprends ça, comment, mais qui c'est lui, tiens, à quoi ça me fait penser ou pas. Et alors, quand on a des paraboles difficiles comme celle d'aujourd'hui, bah, d'autant plus on se dit, mais alors est-ce qu'il parle de ça ou est-ce qu'il parle de ça ou est-ce que... Et on peut être un peu choqué, interpellé, et c'est cela aussi que voulait Jésus. Tu disais tout à l'heure, c'est vrai que me disais, c'est pas un... On peut lire, prier, tout ça, mais si on n'est pas interpellé par ça, ça vaut rien. Et même Jésus va un cran plus loin et il dit explicitement que ces paraboles, elles étaient là aussi pour faire un peu un tri entre ceux qui voulaient comprendre et les autres. Et je ne vais pas détailler ça, mais juste vous lire ce verset, c'est dans Matthieu, au chapitre 13. Et voilà ce que dit Jésus. « C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. » En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc c'est pas, vous voyez, c'est pas du tout la cabale, c'est de dire je vais parler en termes mystérieux pour que ceux qui sont très intelligents comprennent. Mais il y a bien une histoire de tri, mais qui est de se dire je vous fais cette histoire, je vous donne cette histoire-là. Est-ce que vous voulez l'entendre? Est-ce que vous êtes prêts à l'entendre? Et il y avait ceux qui n'étaient pas prêts à l'entendre. Et finalement, ça faisait ce tri-là. Entre les deux. Donc voilà, donc ces paraboles, c'est vraiment là, très rapide, mais elles sont très nombreuses dans Luc. Il y a d'ailleurs de nombreuses paraboles dans Luc qui ne sont présentes dans aucun autre évangile. Et donc, elles ont vraiment Ça veut dire que vraiment notre Seigneur a pensé vraiment que c'était quelque chose d'important. Dieu savait que c'était quelque chose d'important de parler ainsi. Et finalement, il consacre pas mal de versets, de lignes dans sa parole. Alors du coup, peut-être qu'on peut... quelques principes importants pour les comprendre, pour les interpréter. Là aussi, je vais aller relativement vite, mais je pense que c'est important de le mettre d'abord, parce qu'après, quand on va voir cette parabole, on va essayer de s'en tenir à ces principes importants. Vraiment, peut-être le plus important de ces principes importants, le plus crucial, c'est cette idée de rechercher la vérité centrale d'une parabole. On appelle ça la pointe. Donc, ça renvoie à la différence entre une interprétation qu'on pourrait faire un peu de manière allégorique, c'est-à-dire qu'on va chercher à donner un sens et une interprétation à chaque détail d'une parabole. Et là, au contraire, c'est plutôt le principe, c'est plutôt de se focaliser vers la découverte, vers la mise en avant de la pointe, c'est-à-dire de sa vérité centrale. Dans la fable du corbeau et du renard, on ne cherche pas à savoir pourquoi le renard passe sous l'arbre. C'est pas le problème, en fait, hein. Et de la même façon, en fait, et je ne vais pas rentrer là-dedans, mais dans l'histoire d'Église, il y a vraiment eu ce risque qu'en cherchant un sens à chaque détail, eh bien, on en vienne un peu à inventer des sens et inventer ce qu'on a envie d'y voir, et surtout d'oublier du coup la vocation première de la parabole et de ce que Jésus veut nous dire. Donc il y a eu une période dans l'histoire de l'Église, aussi dans nos assemblées, hein, où ce travers a été assez fréquent. Et du coup, en réaction, voilà un peu ce principe de dire quelle est la pointe de la parabole de cette vérité centrale. Et pour cela, s'appuyer préférentiellement, à chaque fois qu'elle existe, sur l'interprétation explicite qu'en donne Jésus. Ce n'est pas le cas pour chaque parabole, mais quand elle y est, évidemment, donner beaucoup de poids et beaucoup d'attention à ce que Jésus en dit. Alors, ce qui, du coup, peut permettre, dans certains cas, hein, je disais, l'important, c'est la pointe, mais aussi d'entrer dans les détails, parce que dans la parabole du semeur, hein, Jésus, il rentre dans les détails, mais il explique quoi les semences, voilà, c'est quoi les oiseaux, c'est quoi les ronces, etc. Et donc, mais là, c'est Jésus qui le donne. Et donc là, effectivement, on peut profiter sans risque, pour le coup, d'une richesse allégorique, mais sinon, s'attacher à ce que Jésus en dit. Et puis, du coup, troisième principe qui est un petit peu lié, c'est de subordonner les traits secondaires au trait central. C'est-à-dire, si on sait, il y a une vérité centrale, du coup, après, on peut relire le reste à la lumière de ça. La semaine dernière, Pierre-Yves, pour ceux qui étaient là, a donné un message sur la parabole de la brebis perdue. Et par exemple, il nous a dit quelque chose. Il nous a dit, ah ben les 99 autres, vous avez vu, attention, elles étaient dans le désert, donc elles n'étaient peut-être pas dans une sécurité parfaite. Ça m'a interpellé. C'est pas dit explicitement dans le texte, mais en fait, le texte, il nous dit bien que Jésus voulait parler à tous ceux qui croyaient être des justes, qui croyaient ne pas avoir besoin de repentance. Donc vous voyez, le trait central, c'était celui-là. Et du coup, à la lumière de ça, on peut se dire, ah ben oui, tiens, c'est intéressant de savoir que des 99, elles n'étaient peut-être pas aussi en danger, aussi en sécurité. Vous voyez, on prend un trait secondaire, mais on l'interprète à travers la vérité centrale. Et donc, du coup, si on respecte ce principe, effectivement, on peut à nouveau trouver des détails dans la parabole, des encouragements, des enseignements. Voilà, ça peut compléter ce que j'ai dit sur la pointe tout à l'heure. Il ne s'agit pas de ne pas en prendre, mais il s'agit de le faire en étant éclairé par ça. Et puis, du coup, quatrième principe qui est un petit peu lié, c'est que on peut se servir d'une parabole comme illustration, mais pas comme une source de doctrine biblique. Thibaut, tu nous avais présenté il y a 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais plus, sur l'histoire du pauvre et de Lazare, qui est accueilli par Abraham. Il ne faut pas chercher là-dedans l'idée que, ah oui, ça c'est la doctrine que Abraham est celui qui accueille à tel endroit, etc. Et tu nous avais dit ce que ça, comment on pouvait le lire et le comprendre. Donc, par contre, tu nous as rappelé aussi que cette histoire, elle nous rappelle quelque chose qui est très souvent dit dans la Bible, que de dire c'est définitif. Il est réservé à l'homme de mourir une fois. Et donc ça, c'est une doctrine biblique sûre. Et donc on peut l'illustrer, lire la parabole à travers ça. Donc voilà, illustration de la doctrine, mais pas source de la doctrine. Donc voilà quelques principes un peu de base. Alors évidemment, il y a beaucoup. Si vous faites un cours d'interprétation biblique, on peut passer beaucoup de temps là-dessus et c'est peut-être un peu rapide, mais je trouvais que c'est important d'avoir un peu, en tout cas, ces traits centraux. Alors du coup, avec ça en tête, je vous propose maintenant qu'on prenne un peu de temps pour regarder cette parabole, donc de ce que j'ai appelé du gestionnaire malhonnête mais prudent. Alors on va la lire, bien sûr, hein, mais c'est une parabole qui... Ouais, c'est ça que je voulais vous mettre. C'est une parabole qui a été considérée comme très difficile, qui a donné lieu à beaucoup d'interprétations multiples, complexes. Et la difficulté, c'est notamment autour de ce qu'on a considéré dans cette parabole comme qu'est-ce qui est approuvé ou non approuvé, qu'est-ce qui est louable ou non louable, et donc comment on peut en tirer des comparaisons ou des enseignements. Et notamment, on peut s'interroger à travers cette parabole, est-ce que finalement Jésus a justifié le précepte que la fin justifierait les moyens, quoi? Donc du coup, vous voyez là, c'est Robin des Bois. Est-ce que c'est une parabole pour Robin des Bois, prince des voleurs, mais pour lutter contre les injustices sociales et politiques? Est-ce que c'est ça, finalement, faites-vous des amis avec les richesses injustes? Alors, on peut même aller un peu plus loin. À droite, c'est une illustration à Medellín, un peu à la gloire de Pablo Escobar. Donc Pablo Escobar, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est celui, le chef du cartel de Medellín, qui d'un côté plongeait dans l'enfer de la drogue des millions de personnes un peu partout, notamment aux États-Unis, qui organisait des assassinats, mais qui en même temps passait pour un bienfaiteur auprès de toute une pas mal de gens en Colombie à Medellín, parce qu'il finançait des hôpitaux, des écoles, des quartiers d'hérité. Et donc voilà, donc c'est quoi, faites-vous des amis avec ces richesses injustes? Donc beaucoup sont évertués un peu à proposer des thèses un peu assez complexes sur cette parabole, ça pour eux. Trouver un sens caché, deviner des contextes d'application. Donc, mais je vais y revenir juste après, mais enfin, moi, on va la lire ensemble, mais justement, je voulais parler avant de ça, avant qu'on la lise et qu'on entre plutôt dans une interprétation un peu traditionnelle. J'ai lu qu'une toute petite partie de ces théories et de ces discussions, mais franchement, quand on relit avec les principes dont on parlait tout à l'heure, je trouve qu'on peut être assez convaincu par l'interprétation. La plus traditionnelle. Donc, c'était juste pour dire que je ne vais pas faire une exposition de toutes les théories de cette parabole. Je vais plutôt tenter de dérouler la logique de celle qui m'apparaît la plus proche du texte. Et alors, justement, le texte, prenons-le. C'est donc dans l'Évangile selon Luc, et c'est au chapitre 16. Donc, c'est à l'écran, mais vous pouvez aussi ouvrir vos livres. On va prendre le temps de. Jésus dit aussi à ses disciples: un homme riche avait un intendant. On vint lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit: qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. Et l'intendant se dit en lui-même: mais que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens? Travailler la terre? J'en ai pas la force. Mendier? J'en ai honte. Ah, je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. Et il fit venir chacun des débiteurs de son maître, donc ceux qui devaient de l'argent à son maître. Et il dit au premier: combien dois-tu à mon maître? Je dois 100 tonneaux d'huile d'olive, répondit-il. Il lui dit: voici ton reçu. Assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre: et toi, combien dois-tu? Je dois 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit: voici ton reçu, écris 80. Et le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir de maître, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et en entendant tout cela, les pharisiens qui aimaient l'argent se moquaient de lui. Et Jésus leur dit: vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. Voilà le texte. Quel est le contexte? En fait, on suit, alors pour le coup, on s'inscrit, hein, juste avant dans le contexte de l'histoire. On a eu en fait les paraboles qu'on a vues la semaine dernière. Donc, la brebis et la pièce perdue, puis le fils prodigue dont nous a parlé Pierre-Yves la semaine dernière. Et puis, juste après, on va avoir justement ce qu'on avait vu avec Thibault la dernière fois, c'est l'histoire de l'homme riche et du pauvre et de Lazare. Donc, on voit bien l'enchaînement, il est évident avec le après, hein, puisque dans Le Riche et Lazare, on avait ces mêmes questionnements qu'on a vus sur l'amour de l'argent, sur aussi qu'est-ce qu'on fait de nos biens, qu'est-ce que c'est nos biens, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on est attentif à l'autre? Ce qu'on avait vu aussi, c'était quelle est notre espérance, comment l'espérance change la façon dont on voit les choses. Donc on voit bien ce lien juste après que Jésus va insister avec cette histoire du riche et de Lazare. Et puis avant, sur le fils prodigue, même si on passe sans doute à quelque chose d'un peu différent, c'est quand même intéressant de se rappeler que dans le fils prodigue, il y a toute cette idée que le père a des ressources, hein, il les met à disposition. Et donc, comment est-ce qu'on utilise, comment est-ce qu'on est en possession, comment est-ce qu'on utilise les ressources du père, est-ce qu'on sent qu'on les a, comment on les gaspille aussi. Donc, on avait ces enseignements qui étaient là juste avant. Et puis, pour rappel, il s'adresse à ses disciples, mais aussi il y a des pharisiens, il y a des publicains, donc des gens qui s'occupaient de collecter aussi les impôts avec pas mal d'interrogations sur leur honnêteté, etc. Donc il y a aussi l'auditoire est assez, assez large ici. Donc, voilà pour le contexte. Donc en fait, je vous propose de progresser dans la parabole sous forme de questions, en se demandant d'abord qui sont les personnages, qu'est-ce qu'ils font, qui ils représentent. Ensuite, de se demander quel est l'enseignement central, qu'est-ce qui est donné en exemple. Et puis, ensuite, de se poser la question, c'est quoi ces richesses injustes? Que sont ces richesses injustes? Richesses injustes, pardon. Et d'en tirer en suivant aussi ce que dit Jésus, qu'est-ce qu'on doit en faire? Qu'est-ce que Dieu nous dit de cet usage? Donc, on va dérouler ces quatre questions. Donc, qui sont les personnages? Donc, qui on a? On a le maître, hein, donc un riche, il est propriétaire des biens. Il délègue la gestion, okay, mais il demande des comptes et il a le pouvoir, il a l'autorité, puisque c'est lui qui va décider d'embaucher ou pas embaucher. C'est lui qui a décidé de nommer gestionnaire, donc propriétaire, délégataire, en gardant la maîtrise de tout ça. Ensuite, il y a le gestionnaire. Le gestionnaire, ben, on voit qu'il est en charge de gérer les biens, comme son nom l'indique. Il a une certaine autonomie, hein, il a un certain de choix. Et puis, il doit trouver sa trajectoire, c'est-à-dire, voilà, il a une autonomie là-dedans, et puis il se projette dans trouver un emploi, réussir à. Enfin, il doit vivre sa vie, faire sa vie avec soit les ressources que le propriétaire lui donne, soit d'autres moyens, mais voilà, il doit faire ça. Et puis, on a le troisième personnage, c'est les débiteurs, donc ceux qui doivent de l'argent, donc eux, on peut penser que c'est ceux qui sont en relation d'échange et de dépendance vis-à-vis du propriétaire à travers le gestionnaire. Donc, qui sont ces personnages? Je vous disais tout à l'heure qu'il y a pas mal de théories sur cette parabole. Franchement, je ne vais pas trop rentrer dedans parce que moi, je suis assez convaincu de cette interprétation-là, qui est de se dire que le propriétaire est Dieu, parce que on voit bien, voilà, le propriétaire est Dieu, c'est lui qui est le propriétaire de toutes choses, de toutes ressources, qui nous les donne. Okay, donc de ce point de vue-là, les autres théories paraissent assez peu probables. Donc certains ont dit c'est le diable, d'autres ont dit en fait c'est l'empereur parce qu'ils ont voulu appliquer la parabole au publicain derrière. Mais franchement, dans la façon dont Jésus le déroule, on peut vraiment penser que c'est Dieu. Que gestionnaire, c'est nous. Nous, parce qu'on est bien gestionnaire des biens délégués par Dieu. Et donc tout ce qu'on a, hein, qu'as-tu que tu n'aies reçu, on nous dit dans les Épîtres. Ce que l'on a, on sait que c'est donné par Dieu, nos compétences, nos talents, l'environnement dans lequel on est, et évidemment les biens matériels aussi, donc c'est nous. Et puis du coup, les débiteurs, c'est un peu nos prochains, puisqu'on est en relation d'échange. Finalement, tout ce que j'ai comme bien et comme compétence, je suis en relation d'échange avec ceux qui sont autour de moi, c'est mes prochains en fait. Donc, quand on part de ça, quel est l'enseignement central et qu'est-ce qui est donné en exemple? Et donc là, peut-être qu'on peut reprendre le texte. Hein, on va reprendre le texte et peut-être pas voilà, relire forcément le début, mais c'est relire la réaction de l'intendant. Hein, donc je relis à partir du verset 3. L'intendant se dit: que vais-je faire puisque mon maître m'enlève la gestion de mes biens? Travailler la terre, j'en ai pas la force, mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. Il fait venir chacun des débiteurs de son maître et dit au premier: combien dois-tu à mon maître? Je dois 100 tonneaux. Il lui dit: voici ton reçu, assieds-toi vite, écris 50. Il dit ensuite à un autre: combien dois-tu? Je dois 100 mesures de blé. Il lui dit: voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Donc, qu'est-ce qui est donné en exemple? Pour moi, il est relativement clair, d'abord, que ce n'est pas le gestionnaire en tant que tel qui est donné en exemple. Parce qu'en fait, c'est ça qui a embêté beaucoup de monde. Et donc, par exemple, on a essayé de dire, mais est-ce que c'était vraiment mal ce qu'il avait fait, etc. Parce qu'en disant, Dieu ne peut pas nous donner en exemple quelque chose qui n'est, quelqu'un qui n'est pas bon. Pour moi, c'est assez clair que ce n'est pas le gestionnaire qui est montré en exemple. On le voit notamment dans ce qu'on vient de lire, hein, au verset 8, juste après, quand Jésus reprend vraiment la parole à la fin, il dit « Les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. » Donc il distingue bien, il y a les enfants de ce monde, les enfants de la lumière. Il ne fait pas une comparaison. Il y a bien deux logiciels qui doivent être différents, avec des objectifs différents. Il ne confond pas les deux, il ne dit pas que les enfants de la lumière doivent être comme les enfants de ce monde. Okay, donc, et vous voyez que on retrouve cette notion d'habileté à la fois dans l'histoire, le maître fit l'éloge à cause de l'habileté, et puis dans les paroles, dans les propos de Jésus, les enfants de ce monde sont plus habiles. Donc c'est bien l'habileté qui est mis en avant. Et donc l'habileté, c'est quoi? C'est vraiment ce terme qui renvoie à une compétence, un peu à une habileté instrumentale. Il avait un but et il a mis en place des choses pour atteindre ce but. Et qu'est-ce qu'on voit en particulier? D'abord, il a pris au sérieux le risque. Ah, je vais me faire virer. Voilà, donc je vais me faire virer. Donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc, il a anticipé, il a prévu, et puis ensuite, il a réfléchi et il a trouvé cette possibilité-là d'aller finalement s'attirer les bonnes grâces des débiteurs de son maître en faisant ses remises. Alors, même dans ses remises, hein, il ne fait pas exactement les mêmes remises à tout le monde. Vous voyez, il y en avait peut-être qui étaient plus riches que d'autres, plus sympas que d'autres. Enfin, on voit, là, il a travaillé son plan. Et donc partout en fait se montre un peu l'habileté. Et donc de ce point de vue-là, c'est vraiment ça qui est mis en avant. Donc activer les bons canaux finalement pour atteindre son objectif, c'est ça et c'est à ça que Jésus finalement nous appelle en tant qu'enfants de lumière, c'est de dire soyez habiles comme le sont les enfants de ce monde. Donc si on va un petit peu loin, ou plutôt pour être sûr de clarifier, est-ce que quid de la malhonnêteté, quid du fait de la magouille, quoi? Est-ce qu'elle est mise en exemple ou tournée en positif? Est-ce qu'elle est un peu effacée ou est-ce qu'elle est un peu compensée? Et donc, est-ce que la fin justifie les moyens, quoi? Alors, de manière, il y a aussi tout un débat, on peut avoir un débat sur. C'est sûr qu'au début, il est malhonnête. Après, le fait qu'il fasse des remises de dettes aux autres, est-ce qu'il avait le droit ou pas le droit de le faire? C'est pas certain, c'est pas évident. Est-ce que là, c'était malhonnête ou pas? On peut pas en être complètement sûr. Mais par contre, ce qui est très clair, c'est qu'il est toujours présenté comme malhonnête. Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête. Et un peu plus loin, on l'a lu au verset 10, celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi dans les grandes. Donc tout le long, c'est très carré. Jésus, il continue à bien mettre dans la case du malhonnête et de l'opposé. Et en fait, pourquoi? Parce que l'intendant, tout le long, il reste dans son péché, dans ce qu'on peut avoir de chercher son propre intérêt, de manière un peu soit complètement tordue au début, soit un peu tordue après, mais en tous les cas, il est toujours en train de chercher son propre intérêt, d'utiliser ses ressources pour lui-même et d'avoir aucune considération pour celui qui est le propriétaire des ressources. Donc de ce point de vue-là, il reste très bien un contre-exemple. Et si on reprend ce que je disais tout à l'heure, en principe aussi, qu'une parabole, quand bien même on aurait un doute dans cette parabole, ce qui ne me semble franchement pas être le cas, principe de tout à l'heure, plein d'endroits dans la Bible où on dit la fin ne vaut pas les moyens. Quoi, je veux dire. Donc on ne pourrait pas en fait, utiliser cette parabole pour dire ça. Jésus refuse la violence, refuse la malhonnêteté, il y a des appels constants dans les épîtres à agir pour que rien ne puisse nous être reproché. Voilà, donc on l'a vu dans le comportement des apôtres, etc. Donc clairement, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que la malhonnêteté n'est pas mise en exemple. C'est bien l'habileté. Et ce qui va dans ce sens-là, c'est ce qui est dit après, enfin justement, c'est de se dire finalement, qu'est-ce que Jésus en tire comme... il parle de cette habileté, hein, il met cette habileté en exemple, verset 8, hein, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que sont les enfants de lumière. Et puis après, à partir du verset 9, eh bien, il va en fait en tirer une conséquence. Il va continuer le parallèle. Et je relis là la suite à partir du verset 9 pour qu'ensuite on vienne dans ces assez. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'ils viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir de maître, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Alors du coup, maintenant on vient sur cette partie-là. Ça veut dire quoi? Du coup, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Et d'abord, que sont finalement ces richesses injustes? Alors, que sont ces richesses injustes? Moi, il me semble pour... Il y a trois pistes un peu qui ont été mises en avant. Moi, il y en a une que je privilégie, mais du coup, pour essayer de... Voilà, aussi vous laisser, évidemment, juge aussi de la façon de percevoir le texte. Mais il me semble que... La première chose, c'est est-ce qu'il est en train de parler de toutes les richesses en tant que telles? Est-ce que les richesses injustes, c'est toutes les richesses? Ou est-ce que c'est certaines richesses? Si vous pensez que c'est... première piste, c'est certaines richesses, c'est spécifique. Donc là, c'est ceux qui disent, bah, finalement, là, quand Jésus parle de richesses injustes, c'est les richesses qui ont été acquises malhonnêtement, comme c'est le cas dans la parabole. Ça, c'est le premier... ce serait la première piste. Moi, je suis pas convaincu du tout par ça. Alors, je disais tout à l'heure, il n'est pas évident déjà que l'acte de remettre les dettes aurait été injuste. Mais bon, ça, c'est pas... Mais surtout, ce qui me convainc pas là-dedans, c'est que bon, l'intendant est toujours appelé malhonnête. On l'a vu, ça, c'est clair. Mais par contre, on voit bien que Jésus, en fait, il élargit et qu'il y a ensuite un degré de généralité sur ces richesses injustes qui est bien supérieur à l'exemple spécifique qu'on a là. Et on va revenir tout à l'heure, mais tout à l'heure, on va le revoir tout à l'heure, il dit il y a les richesses injustes versus les biens véritables. Donc il fait il le regarde de manière très générale. Et il est dit notamment, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Lorsqu'elles viendront à vous manquer, vous allez dans les habitations éternelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de parler quand vous allez mourir. Okay? Donc vous voyez qu'on a plutôt l'impression que c'est des richesses en général. Que ce n'est pas juste les richesses qui ont été volées à un moment ou malhonnêtes d'une certaine façon. Donc, je ne crois pas trop à ça. Donc, on a plutôt l'impression qu'il parle des richesses en général. Et alors, du coup, évidemment, ça pose la question, pourquoi richesse forcément injuste, etc. Et donc, comment on comprend ça? Et là, peut-être qu'on peut, du coup, et là, sans doute, la réponse est moins tranchée, hein, mais je vais vous donner mon sentiment. Est-ce que les richesses deviennent injustes ou sont injustes en fonction de la façon dont on les utilise? Est-ce qu'elles le sont toujours ou pas? Donc vous pouvez dire non, elles ne le sont pas toujours, elles le sont en fonction de la façon dont elles sont utilisées. Okay? Et donc là, ce serait de dire un peu, bah, elles sont injustes ici parce que si on les utilise égoïstement, et si on ne les utilise pas égoïstement, alors ce n'est pas des richesses injustes. Okay? Donc ça marche assez bien avec l'exemple, c'est-à-dire le fait que l'intendant, il les garde pour lui, il l'utilise à son profit, etc. Mais je ne suis pas complètement convaincu non plus, parce que justement, Jésus nous dit après, faites-vous des amis avec les richesses injustes, on n'a pas l'impression que ça transforme. Il continue à parler de richesses injustes. Et il continue après, dans le verset suivant, à disant, en opposant en fait ces richesses injustes et les biens véritables. Donc, même si, bien sûr, l'idée de dire comment on utilise nos richesses pour soi ou pour les autres est très important, moi, j'ai quand même l'impression que non, c'est pas en fonction de leur utilisation. Que quelque part, Jésus nous dit les richesses sont injustes. Les richesses, au sens, les biens matériels que vous avez sont injustes. Alors, là, du coup, comment on peut comprendre ça? On peut comprendre ça en se disant qu'à un moment ou à un autre... Et on le voit assez bien quand on regarde les très grandes fortunes. Alors, il y a des contre-exemples, mais enfin, très souvent, dans les histoires des très grandes fortunes, il y a quand même beaucoup de moments où il y a des choses qui ne sont pas hyper clean. Soit vraiment des choses illégales, etc. Soit au moins des choses qui dans l'avidité, dans la brutalité, etc., sont pas très en cohérence avec ce que vous dites. Et objectivement, c'est un économiste qui vous parle, et c'est aussi un consultant. Donc, quand on voit les très grands enjeux d'argent, etc., bah, en général, je vois Alexandre qui sourit. En général, l'état d'esprit qui est derrière, les comportements que ça génère, etc. Vous avez souvent des injustices, des inégalités que ça génère. Donc vous pouvez penser ça. Donc il y a un moment ou un autre dans la chaîne qui fait qu'une richesse nous arrive, il y a un moment ou un autre une injustice. C'est une manière de le voir. Et puis on peut même le voir même plus fondamentalement, vraiment, en se disant que les richesses que nous avons aujourd'hui dans nos mains, elles sont inscrites dans un système économique qui, moi je pense, vraiment intègre, voire parfois amplifie des comportements pécheurs ou égoïstes. Et c'est quand même, je ne vais pas vous faire un cours sur la monnaie, mais c'est quand même intéressant de voir pourquoi la monnaie vraiment est apparue. Et la monnaie, elle est apparue d'une part parce qu'on voulait faire beaucoup plus d'échanges, donc on voulait amasser. Et donc on avait besoin d'une monnaie pour dépasser un peu un stade un peu artisanal, etc. Et la deuxième chose qui est très importante derrière la monnaie, c'est la confiance. On a besoin de créer de la confiance. Donc ça, c'est le côté positif, hein, et ça fait plein de belles choses, la monnaie. Mais vous voyez, pourquoi vous êtes obligé de créer une monnaie, de créer une confiance, etc. C'est parce qu'il y avait aussi beaucoup de défiance et qu'on ne pouvait pas compter forcément sur comment l'autre allait se comporter, etc. Donc quelque part, c'est pas l'idée de dire, ouh là là, j'ai un billet, à chaque fois que je touche un billet, je dois me confesser parce que j'ai une richesse injuste dans les mains. Mais cette idée que quand même, dans le monde dans lequel on est, avec ce qui nous anime en tant que personne pêcheur et tout ça, eh bien, il y a une injustice, voilà, c'est empreint d'injustice. Moi, je pense que c'est qu'il y a un petit peu de cette idée que c'est injuste par nature. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que tous ceux qui ont de l'argent l'ont fait de manière illégale ou mauvaise, c'est évidemment pas ça, hein. Et ce qui ne veut pas du tout dire que on ne peut pas les utiliser de manière vertueuse, et c'est ce que va nous dire Jésus. Mais voilà, je pense que c'est quand même pas anodin que Jésus l'appelle ça. Et on voit qu'il parle aux pharisiens qui avaient l'amour de l'argent. Quelque part, il vient un peu leur dire attention, quoi. Ah, bon, voilà. C'est un point de vue, hein, il peut y avoir des discussions. Donc, en tout cas, ces richesses injustes, ce qui est important, c'est qu'est-ce que Jésus nous dit aussi sur ce qu'on doit en faire. Et donc, la chose la plus immédiate, c'est s'en faire des amis. Okay? Conseil ciblé, s'en faire des amis. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Donc ça pose peut-être la question, qui sont ces amis, d'abord. Donc quand on regarde dans l'histoire, c'est ceux qui sont autour du gestionnaire, en relation d'échange avec lui. Donc je disais, nous, c'est plutôt, ouais, ça peut être tous ceux qui sont proches autour de nous. Et donc là, il y a un parallèle un peu. Et comment s'en faire? En fait, si on fait le parallèle avec l'histoire, et donc on va voir, le parallèle avec l'histoire, ce serait utiliser les ressources au profit d'autres que soi, okay? Et pas forcément en les volant. Alors, du coup, justement, si on veut. Là, il faut comprendre la parabole, justement, en ayant en tête ce qu'en dit Jésus, hein, avec ses enfants de la lumière et versus ses enfants de cette génération. Le parallèle qui est explicite, c'est qu'il s'agit bien d'avoir un impact positif sur des gens qui sont proches. Alors, pour l'intendant, le but, c'est d'en gagner quelque chose en retour, okay? Et donc, pour nous, et là ça rejoint la question de la malhonnêteté, pour nous il ne faut pas tomber dans l'allégorie justement point à point, quoi. Se faire des amis avec des richesses injustes, ça ne veut pas forcément dire pour qu'ils nous donnent quelque chose en retour, ça peut dire dans quel sens on peut utiliser ces ressources au profit d'autres que soi, dans le sens qu'il les aide, qu'il les soutient. Et de ce point de vue-là, les amis sont tous ceux autour de nous qui peuvent bénéficier des moments où on est enclin à partager quelque chose plutôt qu'à tout garder pour nous, en fait. De ce point de vue-là, voilà, faites-vous des amis. Au premier sens, c'est de se dire, est-ce que on a cette possibilité, enfin cette propension à ouvrir un peu les yeux sur qui est autour de nous et quel bien on peut faire. Mais alors ensuite, bien sûr, là où ça perturbe un peu, c'est de dire, mais on fait des amis pour qu'ils nous accueillent au ciel. Et donc là, ça pose un peu deux questions. Pourquoi ces amis qui nous accueillent au ciel et pas Dieu? Enfin, c'est peut-être un petit peu bizarre. Et puis après, est-ce que ça veut dire qu'en fait on est en train de faire ça pour gagner la place au ciel? Il me semble que c'est les deux questions qu'on peut un peu se poser. La première sous-question, pourquoi finalement, pourquoi eux et pas Dieu? En fait, qu'est-ce que ça veut dire ces amis qui nous accueillent dans les demeures éternelles? Donc là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure en principe général. On ne prend pas une parabole pour faire une doctrine. Okay? Et on sait que. que voilà, on n'a pas d'intermédiaire sur qui nous accueille, au ciel, ok? Et donc, du coup, on n'est pas là-dessus. Mais par contre, donc Jésus n'a pas en vue ici un discours doctrinal sur la façon dont ça se passera au ciel. Mais je pense que ça fait un écho à d'autres scènes et d'autres choses qui ont en commun le fait que nos actions sur Terre, et notamment nos actions envers les autres, ont un écho dans le ciel. Et ça fait quand même vraiment penser, je trouve, je vais lire dans Matthieu 25, au verset 34, ceux qui veulent lire. On peut le lire quand même, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui éclaire aussi cela. Donc Matthieu 25, au verset 34. Donc le contexte, c'est que le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, hein, il s'assiera sur son trône de gloire, toutes les nations seront rassemblées autour de lui. Et puis verset 34, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Et les justes lui répondirent, Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger ou assoiffé ou t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et puis après, il fait exactement la même chose en sens opposé pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et donc, il me semble que la meilleure manière, en tout cas moi, de comprendre ça sur ces amis qui nous accueillent, c'est de se dire que dans une certaine mesure, on sera accueilli au ciel par des souvenirs, l'empreinte des choses qu'on aura pu faire pour Dieu à travers ses frères, c'est-à-dire nos prochains. Donc en gros, c'est pas de savoir qui est à la porte du paradis, mais c'est beaucoup plus engageant quelque part et beaucoup plus fort. C'est on voit comment, dans ce passage de Matthieu 25, Dieu nous dit que voilà, ce que nous aurons fait, finalement, de ce point de vue-là, nous accueillera, nous accompagnera au ciel. Donc on peut le comprendre comme ça, donc une lecture non littérale en fait, c'est un peu plutôt l'impact des fruits que ça représente. Alors après, du coup, la deuxième question que ça pose, c'est de se dire, mais est-ce que Dieu est en train de nous dire, alors utilisez votre argent pour faire du bien, et donc comme ça, au ciel, ça va marcher. Donc, tiens, vas-y, bon, on peut. Et surtout que la leçon, c'est celle de l'habileté. Donc on se dit, ah oui, il faut être habile en fait, c'est de la stratégie tout ça, quoi. Voilà. C'est utilitariste, quoi. Donc là, évidemment, pour avoir pour répondre à ça, pour réflexion, on pourrait avoir un éclairage qui est un peu consensuel, qui dit, alors c'est marqué afin que, hein, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les demeures. Alors, on pourrait essayer à peut-être avoir une tendance à affaiblir ou à nuancer un peu en disant, bah, c'est faites-vous des amis avec les richesses injustes, puis après ils vous accueilleront, mais le afin que, c'est pas une causalité, quoi. C'est pas. Parce qu'on se dit, voilà, le cœur de Jésus, c'est consiste à se faire des amis. Le cœur de l'appel, c'est se faire des amis, faire preuve de bonté. Et le reste, c'est-à-dire leur accueil dans le ciel, ce sera un effet un peu collatéral, quoi. C'est pas un afin que, c'est un et. Mais c'est pas ce que nous dit le texte, c'est quand même afin que. Et donc, je pense que c'est quand même très cohérent ici avec la parabole, et c'est assez redoutable, hein. C'est de se dire que finalement, qu'est-ce que Dieu reconnaît chez l'intendant? C'est le fait qu'il ait été cohérent. Il a eu cette stratégie de long terme en se disant, je ne vais pas avoir ça, donc maintenant je fais ça. Il a été cohérent avec ça, c'est vraiment le cœur. Et si on revient au contexte, justement, Jésus, juste derrière, j'ai fait allusion tout à l'heure, raconte l'histoire du pauvre et de Lazare, qui se réfère aussi clairement au lien entre ce que nous faisons sur la terre, ce qui se passera au ciel. Donc, je pense qu'il y a vraiment une volonté de Jésus de nous secouer sur la cohérence entre le discours et la doctrine, quoi. Entre voilà, ce qui compte, c'est le ciel, mon trésor est dans le ciel, et après, comment vous allouez effectivement vos efforts, votre temps, vos biens. Alors, ça, c'est pas forcément sous l'angle de c'est ça qui nous gagne le salut, mais on a d'autres versets dans les Épîtres qui nous parlent, j'allais dire sans scrupule, du fait que de la perspective des récompenses aussi au ciel, qui influencent notre action. Paul, il court pour le prix, hein. On sait que nos actes seront mis en lumière, en tout cas. Au moment du jugement, nos actes bons ou mauvais seront mis en lumière, même si bien sûr on sera dans le ciel grâce au sang de Jésus, mais ce sera en lumière. Donc, Et d'ailleurs, dans le passage de Matthieu 25 que j'ai relu, comme dans le passage du riche et de Lazare, il n'est pas seulement question d'un degré d'accueil, hein, il est vraiment question d'être accueilli ou pas par Dieu. Donc, il y a quand même un message là constant qui est de se dire que si on est dans un égoïsme caractérisé, est-ce que c'est compatible? Je sais pas, une leçon que je donne, c'est ce que je comprends de ce que Jésus nous dit, est-ce que c'est compatible avec le fait d'avoir reconnu, accepté un Dieu sensible aux autres, sensible aux plus petits? Donc, il y a quand même cette idée forte qui est là. Et ce qui va dans ce sens aussi, c'est que Jésus poursuit, en fait. Il poursuit. Et c'est la fin de ce qu'il dit. Je vais encore relire ces trois derniers versets. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Sinon, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? On sait ces versets. En fait, il y a ce premier conseil qui dit faites-vous des amis, puis après il élargit encore, il me semble un peu, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas à la gestion des richesses injustes, parce que ces richesses injustes, elles sont, il le dit, temporaires et imparfaites. Et finalement, il ouvre une perspective entre ces petites choses, et donc je les ai mis en colonne. Vous voyez qu'il y a les richesses injustes qui sont des petites choses et qui sont à autrui, et puis on a les biens véritables qui sont des grandes choses et qui sont à nous. Donc, quelque part là, Jésus ouvre une perspective. Il ne s'agit plus seulement de gérer ces choses dans notre vie pour accéder à une gestion un peu similaire dans la vie éternelle. Il nous dit, non, il y a quelque chose qui est à la fois, il y a un parallèle, mais qui est radicalement aussi différent. Il y a d'autres biens. Vous avez d'autres biens. On a d'autres biens qui sont vraiment à nous, qui sont les choses véritables. Et ça rejoint justement quand on avait vu Thibaut, tu nous avais notamment, tu avais notamment insisté sur ce que dit Jésus aux riches. Il dit, tu as déjà eu tes biens. Il y avait les biens et d'autres biens. Tu as déjà eu tes biens. Donc ça a confirmé que par contraste, c'est le fait qu'il y a d'autres biens à venir. Et donc, finalement, c'est comme si la gestion déléguée de notre bien terrestre, elle devait être faite à la lumière d'une autre possession parfaite, véritable, du bien donné par Dieu et qui est sa vie éternelle. Et donc, là, il nous dit, voilà, et la fidélité. Et donc, c'est aussi une ouverture positive sur est-ce qu'on se rend compte, est-ce que je me rends compte du bien que Dieu m'a donné, du bien véritable, qui est vraiment à moi. Et donc ça, comment, qu'est-ce que ça fait chez moi? Et donc évidemment, en comprenant comme ça, je trouve que ça fait que ça étend un peu aussi au-delà des biens matériels, parce qu'on ne peut pas penser qu'on aura une nouvelle monnaie au ciel, enfin je ne pense pas. Donc le bien véritable qui est à nous, qui est une grande chose, c'est plutôt la vie éternelle. Et du coup, finalement, c'est aussi notre perspective. Et si on relit le texte comme ça, ben c'est pour ça que plusieurs de ceux aussi qui ont médité ce texte pensent que se faire des amis, c'est pas seulement venir en aide à ceux qui sont autour, mais si on pense que le bien véritable, c'est la vie éternelle, ben se faire des amis et donc partager ce bien, c'est aussi les faire accéder au bien véritable, les faire accéder à la vie éternelle, leur parler de Jésus. Et donc, quelque part, c'est être gestionnaire du bien que Dieu nous a confié. C'est de la même façon que nos richesses matérielles, il ne faut pas les garder pour les autres. Jésus est sans doute là en train de nous faire un double message qui est à la fois assez redoutable sur qu'est-ce que je fais des biens matériels et qu'est-ce que je fais aussi de ce message de l'Évangile. Je dis redoutable, c'était redoutable pour les Juifs de l'époque parce que c'est là, hein, il parlait aux pharisiens qui avaient tendance à garder que pour eux et qui en plus aimaient l'argent. Donc il leur dit, ben, il y a les deux choses, peut-être un petit peu, qu'il leur dit. Mais c'est évidemment aussi redoutable pour moi, si je regarde dans quelle mesure est-ce que je garde pour moi, est-ce que j'ouvre aux autres mes richesses injustes comme mon bien véritable. Et donc juste, je termine là-dessus, sur le fond, finalement, il y a des choses très intéressantes dans cette parabole sur le fond comme sur la forme. Sur le fond, donc, ce que je viens de parler, c'est finalement... Comment on s'interroge sur nos priorités, notre cohérence dans la gestion de ressources financières et autres, puisque ça nous fait penser aussi, hein, je ne vais pas rentrer dans ce parallèle, mais dans la parabole des talents, on retrouve aussi cet aspect petite chose, grande chose, gestion terrestre, gestion céleste, donc, et qui est plus large que les biens matériels. ça me faisait aussi, je trouve, ce qui est intéressant dans le fait dont Jésus met en avant l'habileté, ça me faisait penser aussi, Thibaut, à ce que tu nous avais partagé sur l'ambition, en nous disant qu'il ne fallait pas peur d'avoir des ambitions, des projets, de construire des choses. Et là, moi, je le vois un peu aussi dans cette lignée-là, c'est-à-dire de dire, bah, soyez habile, ayez des stratégies, quoi. Vous pouvez, voilà, et il me semble que ça rejoint aussi un peu cette idée-là. La question, c'est l'usage, c'est pas la minimisation. De ce point de vue-là, voilà, c'est pas l'idée de taper forcément sur la richesse, de dire il faut absolument pas être riche, il faut absolument pas avoir d'argent, mais c'est pas directement ça qu'on appelle la vie, mais c'est comment vous les voyez, hein, et qu'est-ce que vous en faites. Et puis sur la forme, parce qu'on est commencé sur la forme et sur les paraboles, ce qui est quand même intéressant, justement, Jésus, il n'a pas eu peur quand même de provoquer, d'aller dans des images un peu compliquées, et il s'est pas dit, ah, mais attention, parce que peut-être qu'ils vont mal interpréter, peut-être que, et puis c'est compliqué, et en fait, il y va, quoi. Et donc, quelque part, c'est aussi intéressant de voir ça. Je trouve ça, c'est une parabole aussi qui confirme le principe vraiment de. Ce qui est vraiment important, c'est. On s'attache d'abord à ce que dit Jésus de la parabole, et donc parce que sinon cette parabole, on peut la faire partir dans tous les sens. Je trouve que quand même ce qu'en dit Jésus, même si ça, je dis pas qu'il y a aucune question derrière ou aucune difficulté, mais ça le cadre quand même vraiment, c'est assez important. Et puis on voit que là, c'est un enseignement justement, ça rejoint un petit peu la question de la provocation. C'est pas que des images un peu gentilles ou c'est bien, je vous dis de faire comme ce qui est bien. Là, c'est plutôt un enseignement de contraste. De comparaison décalée. Voilà, et donc il vient chercher une image. Voilà, donc les enseignements qu'on peut tirer d'une parabole, elles sont pas toujours en application directe, elles peuvent être en application décalée ou en application contrastée, et comme c'est le cas ici, et comme c'était le cas aussi de la parabole sur l'unique, mais qu'on verra, que vous verrez chez vous. Merci.